Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans toute une vie, des vies en forme de portraits sonores d'hommes et de femmes qui ont marqué leur époque et les suivantes. De la guerre du Vietnam à l'Afghanistan, elle a sillonné les fronts de guerre avec son appareil photo, sans se laisser rattraper par l'hostilité de ses collègues masculins qui lui disputaient l'exclusivité virile des théâtres de guerre sur la couverture de Life ou dans les pages de Paris Match. Anna Baron et Yvon Croisier nous racontent aujourd'hui l'histoire de Catherine Leroy, photographe dans le bruit et la fureur.
Catherine Leroy est petite, on peut même dire très petite. Elle a une mini-robe rose, des grands cheveux blonds, attachés en queue de cheval. Mais dites-moi, Cathy, votre robe rose, c'est pas votre costume de travail?
Non, pas exactement.
Qu'est-ce que vous portez d'habitude?
Un treillis et des bottes.
Un casque?
Oui, depuis quelque temps, je porte un casque.
Et un gilet pare-balles?
Et un gilet, oui, aussi.
Elle naît un soir de grand bombardement en août 44. Et après, le hasard veut qu'elle devient, bien plus tard, correspondante de guerre. Elle raconte qu'au début, son rêve a été, peut-être, je ne sais pas, quand elle devait avoir comme 18 ans, ses parents lui faisaient jouer de la musique et elle adorait le jazz et elle dit à la journaliste: j'aurais aimé être une star de jazz, mais comme je n'ai pas réussi, eh bien je serai correspondante de guerre.
Elle s'achète un appareil photo, elle s'achète un billet d'avion, et avec 100 ou 150 dollars en poche, elle se rend au Vietnam en février 1966, elle a 20 ans. C'est une gamine, elle arrive, elle a deux petites couettes comme ça, etc. Et elle est jolie, elle est pétillante, elle est, etc. Elle est allée voir le chef de bureau de la Société de Presse, dirigé par un Allemand assez bourru, Horsfass, qui voit rentrer dans son bureau ce petit bout de bonne femme comme ça, avec ses couettes. Il est un peu époustouflé, parce qu'il a l'habitude des mecs. Pourquoi vous venez me voir? Ben voilà, je veux être photographe de guerre, lui dit-elle. Alors elle lui dit: oui, mais vous savez, moi j'ai beaucoup de photographes, déjà qui travaillent pour nous, on n'a pas vraiment besoin de quelqu'un, mais par contre, la vie quotidienne des femmes et des enfants, et elle l'arrête tout de suite, elle dit: non, moi je suis venu ici pour être photographe de guerre.
I'm traveling life because my man has gone, and from now on I'm traveling life. He said goodbye.
Catherine Leroy, un regard oublié. Anna Baron, Yvon Croisier. Robert Pledge, vous êtes journaliste et fondateur de l'agence Contact Presse Images et cofondateur de la dotation Catherine Leroy. Comment avez-vous fait sa rencontre?
Ah, ça c'est une chose un petit peu étrange vraiment. Ça remonte à très longtemps. Je pense que c'était en 1970 ou 71. Je travaillais alors pour un magazine de photographie qui s'appelait Zoom. Donc j'étais amené à rencontrer des photographes. Et je connaissais Christian Simon Pietri et qui me dit: tu devrais rencontrer Catherine Leroy. Et donc je me suis rendu, je ne me souviens pas si c'est chez lui ou chez elle, il y avait une sorte de tente qui était installée au milieu du salon, et il y avait ces deux personnages, Christian et Catherine Leroy, qui étaient allongés, et une forte odeur de marijuana. Et ça a été ma première rencontre. Peu après son retour du Vietnam, elle est rentrée tout à la fin de l'année 68 ou au début de l'année 69, après 3 ans, à couvrir le conflit, la seule femme photographe présente pendant cette période militaire la plus intense, ce conflit terrible, et j'étais surpris de voir ce petit bout de chou. J'ai tout de suite dans ma tête surnommé une sorte d'Edith Piaf de la photographie de guerre. Je ne sais pas si ça a beaucoup de sens, mais c'était ça. C'était ce petit bout de bonne femme qui semblait très frêle et qui a eu une force, une énergie dans sa voix, d'une part, mais aussi dans son comportement. On sentait que c'était une vraie présence.
Christine Spengler, est-ce que vous vous rappelez de votre première rencontre avec Catherine Leroy ?
Oui, parce qu'elle était... toujours à égale à elle-même. Moi aussi, quand je suis sur le terrain, je suis égale à moi-même. On m'appelle en Iran, justement au Liban, la Saouda, la femme en noir. Je parle de moi pour me différencier d'elle. Donc moi, déjà brune, ce qui est un très grand avantage dans ce métier d'être brune. Par exemple, Catherine, au Liban, ça allait. Mais chez les talibans, on voit des mèches blondes ou des yeux bleus. Alors là, ils vous prennent et ils vous embarquent d'office. Bon, Catherine, la première fois que je l'ai vue, c'était un soir en rentrant du front à notre hôtel Commodore. Tout le monde se voyait au bar. Alors, la première fois que je l'ai vue, eh ben, je n'ai eu aucune surprise. On m'avait tellement dit comment elle était, j'ai bien su que c'était elle. Elle était toujours habillée en treillis, c'est-à-dire en soldate américaine. Puis comme elle était, il paraît, je ne savais pas, mais qu'elle adorait la mode, ses costumes, ses treillis, elle les achetait pas, comme la plupart des journalistes au marché aux voleurs, pour $1. Non. Elle se les faisait faire en Italie, les bottes copiées, merveilleuses, dans des cuirs. Bon, en treillis, mais très élégante. Et donc, je descends pour prendre un verre, et alors, je la vois, et ça pouvait être qu'elle. Toute petite, toute menue, mais elle s'était juchée sur un immense tabouret du bar. J'arrive, je sais immédiatement que c'est elle, et elle sait immédiatement que c'est la Saouda qui arrive. Bon, forcément, comme dirait Marguerite, forcément on s'embrasse. Il n'y avait pas de Covid. Bon, on s'embrasse. Après, je crois... qu'on ne s'est plus jamais embrassé de notre vie, parce qu'on était comme des hommes, hein, aussi. Mais en fait, là, c'était la première fois, donc je pense qu'on s'est embrassé, je lui ai dit que j'étais très heureuse de la voir.
Elisabeth Baker, vous êtes journaliste, autrice du livre « You Don't Belong Here ». Qui était Catherine Leroy avant 1966 et son départ pour le Vietnam ?
She was an extraordinary character. She refused
C'était un personnage assez incroyable. Elle a refusé de passer son baccalauréat alors qu'elle venait d'une famille de la petite bourgeoisie de la banlieue parisienne. Elle n'arrêtait pas de désobéir à ses parents. Elle faisait les 400 coups. Elle a décidé d'arrêter soudainement la musique alors que c'était une jeune pianiste très talentueuse. Sa famille était très conservatrice. Et elle a été élevée dans l'idée que la France aurait dû gagner la guerre d'Indochine. Donc elle arrive au Vietnam avec une idée très vague de l'histoire de ce pays et du contexte de cette nouvelle guerre.
Je ne savais pas grand-chose du Vietnam, si ce n'est que j'avais des souvenirs d'enfance de mon père en train de pleurer quand Dien Bien Phu est tombé.
Catherine Leroy, Radio-Canada, mai 1989.
Et c'était la grande époque, vous savez, des magazines comme Life et Paris Match, sur lesquels on trouvait beaucoup de reportages. Je me souviens du premier reportage que j'ai vu, je crois, c'était l'invasion des chars russes en Hongrie. Et un photographe français de Paris Match avait été blessé, il en est même mort, Pierre Pedrazzini, et ça m'avait absolument bouleversée. Et l'autre chose dont je me souviens très, très fort et très, très violemment, c'est de mon père pleurant au moment de la chute de Dien Bien Phu. Il s'est mis à pleurer. Il y a eu la retransmission du dernier message radio envoyé par le général français qui défendait le camp tranché. Et puis, voilà, le camp est tombé, mon père a pleuré. Et je me souviens des photos qui sont sorties dans Paris Match la semaine suivante, des films qui avaient été ramenés, etc., que l'on présentait comme les dernières photos, et j'étais absolument bouleversée.
Et maintenant, là... Je vais raconter aux éditeurs un petit secret.
Christine Spengler, photographe.
Parce que je dis pas qu'il me l'a dit, mais quelqu'un de très proche de Catherine, donc c'est vrai. C'est-à-dire que ce n'est pas par hasard que Catherine s'est mise à faire des sauts en parachute près de Enghien-les-Bains, dans sa région. Parce que c'est quand même un peu bizarre, non? Eh bien non, c'est tout simplement qu'elle était amoureuse d'un très beau garçon. Et lui, évidemment, elle l'avait connu à cet endroit. Il sautait en parachute. Et c'est de là qu'elle a pensé, eh ben moi aussi, je vais lui montrer que je suis capable de sauter en parachute. Et c'est comme ça qu'elle est allée dans cette école pour séduire un homme qui lui plaisait. Et alors après, eh ben c'était une star de parachute parce qu'elle avait déjà fait, il paraît, effectué 89 sauts avant d'aller au Vietnam. Après, s'est acheté son premier appareil photo que j'ai connu, un Leica. Et surtout, sachant combien elle était petite, menue, je veux dire, et fragile, et puis trop touchante avec ses cheveux blonds. Des fois, elle mettait des petites couettes, des petites tresses. Il paraît que quand elle sautait en parachute, il paraît qu'il y avait les tresses qui se dressaient sur le casque.
Catherine Leroy, à voix haute, à voix basse, mars 1968.
Le frère d'une de mes amies est photographe de mode à Paris et je passais pas mal de temps dans son studio. Ça m'intéressait. Bon, j'ai commencé à régler les éclairages et puis j'ai commencé à tripoter une caméra et puis deux caméras. Puis j'ai demandé comment on faisait pour s'en servir. C'était un jouet. C'est d'ailleurs toujours un jouet pour moi. Je m'amuse. Faut dire les choses comme elles sont. Et puis un jour j'ai pris un appareil et puis j'ai fait des photos et puis ça m'a intéressée. Puis je travaillais un petit peu, puis je travaillais des expressions, les expressions des gens m'intéressaient. Et puis j'ai pensé que une situation comme la guerre devait être fantastique au point de vue photo. Enfin, il y avait la vie, la mort, tout ça qui pouvait se retranscrire en photo. J'ai voulu faire ça.
On n'était pas amis proches avec Catherine Leroy. On se connaissait bien parce qu'on s'est connus assez tôt. Et tous les 2 ans, tous les 5 ans, tous les 6 mois, selon les années, on se rencontrait, elle m'appelait, on déjeunait, on dînait, on bavardait, on parlait de choses et d'autres, etc.
Robert Pledge.
Alors, pourquoi le Vietnam? Évidemment, ça c'est intéressant. Elle aurait pu faire un touch. Non, c'est le Vietnam. Elle s'achète un appareil photo, elle s'achète un billet d'avion, aller simple, ce qu'elle n'a pas dit à ses parents, bien sûr, et avec 100 ou 150 dollars en poche, elle se rend à Saigon via le Laos, je crois, voilà, Vientiane. Et parmi les premières personnes qu'elle rencontre, il y a Christian Simon Pietri. Et il se prend d'amitié, et je dis bien d'amitié pour Catherine, qu'il voit complètement perdu dans cet univers qui est totalement nouveau pour elle, et il décide de l'aider et de lui présenter des gens. Le chef de bureau de la société de presse, Horst Fass, il lui a donné 5 ou 10 rouleaux de film, et lui a dit, voilà, débrouillez-vous, et revenez avec des images, on vous paye $15 la photo retenue. $15, c'est dérisoire, enfin, c'est Et elle est partie comme ça, en opération. Et en fait, elle est le journaliste, pas la photographe, le journaliste qui a sans doute passé le plus de temps en opération militaire parmi tous les journalistes au Vietnam pendant cette période de 3 ans. C'est qu'elle n'avait pas d'argent, elle ne pouvait pas se payer l'hôtel et les restaurants un peu chics de Saigon. Donc elle partait en opération parce qu'au moins elle avait les rations militaires et elle avait toujours un foutong ou la tente, comme les soldats qu'elle accompagnait. Je crois qu'il y a une autre raison aussi, beaucoup plus personnelle, c'est que l'âge moyen des GI au Vietnam à cette époque-là était d'environ 21 ans. C'était sa génération. ils parlaient la même langue, ils écoutaient la même musique. Et il y a eu comme ça une connexion qui s'est faite. Elle avait vraiment développé une amitié, une admiration pour ces jeunes mecs qui partaient à une guerre qui n'avait aucun sens.
Les soldats en opération, oui, m'admettent comme un GI. Ceux qui sont dans des états-majors, évidemment, me considèrent beaucoup moins comme un GI. Enfin, les relations sont tout à fait différentes. Mais je suis constamment en opération, donc il n'y a aucun problème. Je marche avec eux, je bois avec eux, je transpire avec eux, j'ai peur avec eux, j'ai très peur souvent. Et puis ce sont de bons copains. Je les aime bien.
Elisabeth Baker, quelle est la particularité de la guerre du Vietnam d'un point de vue médiatique?
That's an excellent question because it's the first and last war.
C'est la première et dernière guerre où les journalistes avaient la liberté de parler de tout. Avant la Deuxième Guerre mondiale, les journalistes étaient censurés, ils portaient l'uniforme américain, ils faisaient partie de l'armée, et les femmes n'étaient pas tolérées et devaient rester à l'arrière, avec les infirmières par exemple. Mais comme le président Lyndon Johnson n'a pas déclaré la guerre au Vietnam, toutes ces règles et interdictions pouvaient être ignorées. Les journalistes avaient uniquement besoin d'une accréditation pour se rendre sur les zones de guerre, avec l'accord du commandant en chef, bien sûr. Les femmes journalistes profitent de cette faille. Et c'est comme ça qu'elles ont pu, pour la première fois, vraiment couvrir les combats dans une guerre américaine. Donc ça a été très important. Ça leur a donné une certaine liberté de mouvement, mais surtout la possibilité de devenir des correspondantes de guerre. C'était une époque étrange. Les femmes photographes n'avaient pas couvert de guerre. Il y a eu de rares exceptions, comme la guerre d'Espagne.
Was the one woman that was known for combat reporter. She arrived, in Vietnam.
Dickie Chappelle était la seule femme reconnue comme correspondante de guerre. Elle arrive au Vietnam peu de temps avant Catherine. Et tout le monde suivait avec intérêt son travail. Mais elle a été tuée quelques semaines après son arrivée.
News photography offices around the world because
ça a refroidi les agences de presse à travers le monde. C'était un choc de voir les photographies de Dickie Chappelle morte sur le champ de bataille. On pouvait même apercevoir ses boucles d'oreilles. Donc à l'arrivée de Catherine Leroy, son modèle, la seule qui l'avait précédée, venait juste d'être tuée et les rédactions de New York étaient réticentes à envoyer des femmes sur le front. Les femmes étaient à peine tolérées dans le journalisme sportif, donc certainement pas sur un terrain aussi violent que la guerre.
Robert Pledge, vous avez découvert après sa mort la correspondance, les lettres qu'elle envoyait à ses parents, Catherine Leroy, pendant sa présence au Vietnam. Qu'est-ce que vous avez découvert d'elle à travers cette correspondance?
Oui, alors déjà, la découverte de ces lettres en elle-même est assez extraordinaire. Nous héritons de l'œuvre, du copyright, etc. Donc on commence à l'éplucher, si on veut. Et puis un jour, on me dit, bon, il faut vraiment qu'on regarde le Vietnam. C'est ça, la première partie de son travail. Elle a continué à travailler 15 ans après, le Moyen-Orient, le conflit du Liban, la guerre civile. Elle était en Afghanistan, elle était en Irak, elle était en Libye, elle s'est baladée. Mais le Vietnam, c'est le premier chapitre. Donc Dominique récupère tout ce qui touchait ou semblait toucher au Vietnam, y compris ses chaussures, ses appareils photos, ses vêtements. Elle avait gardé un tas de trucs, une petite boîte. Et Dominique Deschavannes ouvre cette petite boîte, et qu'est-ce qu'elle trouve dans cette boîte? Une centaine, 107 ou 110 lettres que Catherine Leroy a écrites à sa maman et à son papa pendant les 3 ans pendant lesquels elle était au Vietnam. Ça raconte une autre histoire. Parce qu'elle ne voulait pas que ses parents s'inquiètent. Et puis elle parlait sur un autre ton. D'ailleurs, quelque chose de très étonnant, c'était la dimension intimiste de sa relation avec sa maman, qui était absolument à l'opposé d'elle. Elle, indépendante, prête à prendre des risques, sa maman, une petite dame adorable, j'ai rencontré multiples fois, avec une voix très douce, qui vivait dans son petit pavillon de banlieue, tout était en dentelle et en couleur pastel, etc. C'était les deux bouts du spectre, comme ça. Mais une relation incroyable, et Catherine extrêmement directe avec elle, et quand sa maman lui disait « si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à me demander », un jour elle lui dit « oui, envoie-moi des Tampax, parce que ça peut me servir et c'est pas facile à trouver ici ». C'est pas une relation, à l'époque, ordinaire. Et les lettres nous ont aidés à comprendre certaines choses, certains événements, de retrouver une chronologie parfois. On comprenait aussi que ces lettres n'expliquaient pas tout, qu'on ne pouvait pas prendre ces lettres à la lettre. Parfois, il fallait les lire à l'envers pour savoir où en étaient les choses. Quand elle disait « je suis là », c'est un peu comme le Club Med ici, tout va bien, il fait beau, etc. On savait que ce n'était pas vraiment ça parce qu'il y avait les images qu'elle envoyait en même temps. Et quand on les juxtaposait, ça ne fonctionnait pas parfaitement.
Saigon, le 5 novembre 1966. Cher papa, ta lettre m'est parvenue ce matin. Avec un peu de chance et dans le sens France-Vietnam, le courrier arrive assez rapidement. Sans être des enfants de cœur, les boss américains sont en définitive moins truands que les Français. C'est bref, précis, on veut du bon travail et on te paye. Les photographes, eux, c'est autre chose. Un type a essayé de me faire sauter ma carte de presse américaine parce que depuis 3 semaines, j'avais de meilleures photos que lui. Il est payé au mois, je suis payé à la photo vendue, il en a fait une maladie. Je suis restée bloquée 1 semaine à Saigon sans savoir si j'aurais le renouvellement de ma carte de presse. J'ai été pendant 1 semaine dans un état d'âme tel que je voulais me jeter dans le Mékong. Quant aux relations avec les gens, tout est très superficiel. Toujours reparti, je n'ai pas vraiment le temps de connaître d'autres gens que ceux de la presse. Et parce que tout cela me fatigue, je reste chez moi de nuit à Saigon entre 2 opérations. Écris-moi. Je vous embrasse tous deux affectueusement. Cathy.
À Catherine, sur place, des choses, il lui en est arrivé beaucoup. Elle a vu des choses et elle a assisté notamment, en 1967, à une des plus brutales bataille pour des collines du côté de Dak Tho, Danang, au centre du Vietnam, et notamment une colline, la colline 881, où elle a fait cette série d'images absolument extraordinaires d'un médecin, cet infirmier plutôt, Vernon Wake, voit qu'un marine a été blessé au sommet de cette colline 881, il se précipite évidemment pour essayer de le secourir et il grimpe cette colline et cette colline est décharnée par les bombardements de toutes sortes, il n'y a plus une feuille qui existe sur aucun des arbres, etc. Et il grimpe là-haut et il retrouve le marine allongé, essaye de voir où il en est, de le ressusciter. Et en fait, il meurt dans ses bras, et ça canarde de tous les côtés, il est un peu perdu lui-même, il cherche à comprendre d'où vient le tir, et tout ça, il est photographié. Parce que Catherine Leroy l'a suivi à la trace, a grimpé la colline derrière lui à plat ventre, dans la broussaille, dans les trucs, collé, plaqué au sol, avec des broussailles qui apparaissent pas. Et elle grimpe la colline, elle le photographie. Comme ça, hagard, et tout d'un coup, il s'aperçoit qu'elle est présente.
Cette photo a eu un retentissement dès sa publication.
C'est-à-dire que c'était une série de photos. C'est ça qui est extraordinaire, c'est comme un film. Il y a 8 images, mais c'est surtout une ou deux qui ont été largement publiées et qui lui vaudront le prix George Polk, qui est un prix extrêmement important aux États-Unis, et surtout à l'époque. Et Catherine Roy est la première femme, la première étrangère à avoir jamais gagné ce prix.
Rose Fass, notre patron à toutes, les fameuses photos emblématiques de la colline 881, eh bien ça, il paraît que tout macho qu'il était, elles ont forcé son admiration.
Christine Spengler.
Parce qu'il y a ce sentiment humain qu'elle a saisi de très près avec son legs. Elle a saisi le regard, l'expression désemparée, d'impuissance bouleversée du soldat infirmier qui croit qu'il est arrivé à temps pour sauver son bud, son copain, son ami, le serre dans ses bras, mais se rend compte que c'est trop tard et qu'il est déjà mort.
Voilà, alors quand on regarde cette image, ce qui est assez hallucinante, donc ce personnage qui est accroupi sur le corps d'un Marines qui est en fait mort, il s'en aperçoit à ce moment-là. Catherine Leroy est très proche d'eux. Elle est à quelques pas de la scène, à quelques mètres seulement. Ça canarde de tous les côtés. Alors il prend ses affaires et il grimpe la colline à toute vitesse. Il se projette en avant et on le voit là maintenant de dos, en haut de la colline, dans encore une fois un paysage dénudé, de branchages, etc. Et Catherine, on voit contourner le corps, elle est là à plat ventre, elle est comme un serpent, elle glisse le long du sol pour se rapprocher de sa proie qui est la scène qui se déroule devant elle. C'est quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement filmique. C'est pas Cartier-Bresson et le moment décisif.
J'aimais beaucoup comment elle parlait de sa cible dans une photo. Ça résume bien son style. Elle disait « Je cherche toujours les yeux. Je veux voir les yeux. » Elle le disait très poétiquement. Et c'est logique. On sait tous, quand on prend une amie en photo, qu'on regarde ses yeux. Mais sur le front, c'est fou de faire ça. C'est incroyablement difficile. On doit suffisamment maîtriser son art et son style et son corps et sa sûreté physique pour pouvoir s'approcher juste assez et capturer le regard dans les yeux du soldat ou le regard dans les yeux du réfugié. On peut aller jusqu'à capturer un regard au sein d'une immense file de paysans qui ont été chassés de leur village, comme elle l'a fait. Donc son style est très humain, mais aussi dans le mouvement. Ce qui est difficile à décrire, mais évident quand on voit ses photos. Elle n'a pas peur du flou. Mais on peut voir les mouvements et les éléments du ciel ou d'ailleurs qui s'agencent parfaitement.
Elle a apporté, c'est certain, à la photographie de conflit, une autre dimension qu'on n'a pas encore clairement reconnue, qu'on va reconnaître au fur et à mesure qu'on va découvrir son travail, parce que encore très peu de choses ont été publiées, même depuis que la Fondation existe. Mais on va découvrir d'autres images, et notamment une qui est absolument... on parle souvent du cri de Munch, mais il y a cette image absolument hallucinante d'un marine blessé, collé au sol, qu'elle surplombe avec sa caméra. Elle doit être à 60 cm de lui. Il est en train de hurler, il y a quelqu'un qui essaye de le soigner, il a été blessé, et il pousse un cri de douleur absolument atroce.
Toutes ces images ont été faites dans la fureur et le bruit et le fracas des explosions et le hurlement des blessés. Et je crois que, si vous voulez, aucune image que l'on regarde ne peut traduire le cri des blessés ou ne peut traduire l'odeur des cadavres. Et quand on regarde ces photos, c'est un moment glacé d'éternité silencieuse. Ça ne retransmet absolument pas la violence et la folie et la peur.
Absolutely.
to me.
Elizabeth Baker, en quoi son travail au Vietnam de 1966 à 1969 relève de l'exploit?
She took photographs that hadn't no one else had taken.
Elle prenait des photographies comme personne avant elle.
Very much because she didn't.
Précisément parce qu'elle ne savait pas ce qu'elle était censée faire. Elle a ouvert un champ dans la photographie. Les changements, les innovations qu'elle a apportées sont devenus courants. Mais aussi, elle a tracé un chemin pour les femmes. Je suis tellement étonnée que les Français ne réalisent pas que ça a été la première femme à gagner le prix George Polk pour la photographie, la toute première. La première femme aussi a gagné la médaille d'or Robert Capa. Mais elle était tellement maltraitée par ses collègues que ses exploits ont été minimisés. Elle a été très maltraitée. Les générations d'après l'ont compris plus tard. C'est ce qui m'a le plus étonnée pendant mes recherches. J'ai dû chercher dans la loi d'accès à l'information pour demander la déclassification de documents secrets. Et j'ai pu consulter le dossier qui avait été fait à son encontre par ses collègues, dont le chef de l'AFP à Saigon et d'autres journalistes anonymes qui travaillaient avec les autorités américaines sur place, parce qu'ils ne voulaient pas que Catherine reste au Vietnam. Et ils considéraient qu'en tant que femme, elle n'avait rien à faire dans ce milieu. Elle a réussi à convaincre l'armée de lui redonner ses accréditations, sans lesquelles il lui était impossible de travailler. Je n'ai pas réussi à trouver un autre exemple de journaliste agissant de cette façon contre leurs collègues. Elle est devenue la cible privilégiée de la misogynie envers les femmes journalistes de guerre. On ne peut pas faire plus machiste que le journalisme de guerre. Mais Catherine a eu le culot d'y aller. En plus, elle jure comme eux, se montre aussi ambitieuse et vend même mieux qu'eux. Ils l'ont punie pour ça. C'est pour cette raison que je lui tire mon chapeau, parce que malgré tout, elle n'a pas abandonné.
Saigon, le 23 février 1967. Mon cher papa, j'ai sauté hier, le 22 février, avec la 173e Airborne. J'étais la première femme à sauter au Vietnam lors de ce premier saut opérationnel des para-américains depuis le début de la guerre. C'est une grande réussite. 700 hommes ont été largués en moins de 10 minutes à 5 km de la frontière cambodgienne. J'étais dans le 4e avion, un C-130, 60 hommes, la 7e à sauter lors du premier passage. Associated Press m'a acheté l'histoire plus photo noir et blanc. Life, j'espère, prendra plusieurs couleurs et, quant à Match, il aura été envoyé un portfolio en couleurs de Cathy avec un parachute sur le dos avant d'embarquer. Je suis très fière d'avoir sauté avec des Américains ici. C'est en tout point une grande réussite professionnelle. Il me faut simplement continuer sur cette lancée. Je soumettrai à la fin de l'année mes meilleures photos au jury du Pulitzer et à d'autres grands prix, d'ailleurs. Par l'intermédiaire d'AP, j'ai peut-être une chance de faire un prix. J'ai toujours pensé que je devais y arriver parce que je ne me suis jamais rendue. Je vais être nommée membre d'honneur de cette brigade après la fin de cette opération. Il doit y avoir une grande cérémonie de remise de certificats de saut de combat. Je devrais ensuite me soumettre aux règles en vigueur du bizutage pour être membre d'honneur. J'ai assez peur étant donné qu'ils ne me feront aucune fleur. Je t'envoie ici une radiophoto. Je t'embrasse très fort ainsi que maman. PS, j'espère que ta connasse de sœur aura vu Paris Match.
Je parlais récemment à un ancien lieutenant des Marines qui était à UE, qui a pris contact avec nous.
Robert Pledge, fondateur de la dotation Catherine Leroy.
À propos de Catherine Leroy, parce qu'il est en train d'écrire un mémoire sur son expérience à la bataille de Hue. Et il m'a dit, vous savez, j'ai pas connu Catherine Leroy, mais je savais qui elle était. À cause de Life Magazine, qui a publié ce numéro incroyable, avec un sujet couverture, avec des images de Catherine Leroy sur sa rencontre avec les Nord-Vietnamiens. Les Nord-Vietnamiens qui n'avaient jamais été photographiés au Vietnam, jamais. Elle est tombée sur eux par hasard. Elle était accompagnée de François Mazure, un journaliste français qui travaillait, je crois, pour l'AFP. Ils se sont baladés dans les environs de Hue et tout d'un coup sont arrivés en territoire occupé par les Nord-Vietnamiens qui les ont fait prisonniers. Mais elle a expliqué qu'elle était journaliste, qu'ils étaient des journalistes français, qu'ils n'étaient pas des Américains, que, etc., etc. Et un lieutenant vietnamien, et il parlait le français un peu, il a dit « Bon, on vous libère, repartez tout de suite. » Ce à quoi elle a dit « Non, si nous sommes là, on veut faire quelques photos, on veut faire quelques interviews, on ne vous voit jamais, personne ne parle de vous, tout le monde parle des autres et jamais de vous, etc. » Ils ont accepté et ils les ont laissés travailler pendant quelques heures. Et elle est revenue avec un scoop extraordinaire qui a quand même fait la couverture et 8 pages de Life Magazine. Et Life Magazine, c'était un magazine de 3,5 millions d'exemplaires ou peut-être plus. C'était l'Internet et la télévision tout en un. C'était un truc extraordinaire. Alors cette petite Française qui tout d'un coup, avec son nom en couverture, ce qui est extrêmement rare dans Life, avec une page éditoriale par le rédacteur en chef, entièrement dévoué à elle et son courage et son travail, et puis 8 pages intérieures avec un texte qu'elle a écrit. Ça, c'était jamais vu. Alors évidemment, les journalistes, les mecs, surtout au Vietnam, ils ont... Alors, c'est des émotions différentes, hein, admiratifs, incrédule, furieux, jaloux, enfin tous les sentiments possibles et imaginables. Voilà.
Saigon, le 9 septembre 1968. Ma chère maman, j'ai envie de partir au Cachemire et de devenir hippie. Méditer est, paraît-il, une façon d'être meilleure. J'ai bien peur que la guerre ne tire pas à sa fin avant un bon bout de temps. Que ce soit Nixon ou Humphrey, à mon avis, ça fait aucune différence. La Grande Manche se déroulera probablement l'année prochaine. Je ne pense pas que les Viet tenteront quelque chose d'ici là. Te serait-il possible de m'envoyer 3 paires de ballerines, taille 37,5, toutes simples, bourrons, talons plats avec autour un galon. J'aimerais une paire noire, une paire bleue et une paire blanche. J'ai passé de bons moments avec les paravietnamiens. Ce sont pour moi de merveilleux copains. Je connais tout l'état-major de la division et vais les voir quand j'ai pas trop de travail. D'abord, le chef d'état-major, colonel Oa, premier cognac de la journée. Puis commandant Fête, deuxième cognac. Quand j'arrive au bureau du colonel Bong, je marche un peu de travers et me sens d'une humeur du tonnerre. Tellement bien, en fait, que nous allons ensemble jusqu'au bureau du commandant Vin, chef de l'école des paras, et finissons allègrement la journée à raconter des histoires et à finir la bouteille de Martel entamée quelques heures plus tôt. Les Américains sont quelque peu de mauvaise humeur à cause de mes excellentes relations avec eux, mais je m'en fous. Le lieutenant d'information américain, un jeune type charmant, m'a dit un soir que ses boss me soupçonnaient de travailler pour les services de renseignement français. Tu te rends compte? Tout Saigon est atteint d'espionnites. Chacun pense toujours que l'autre est de la CIA et moi-même, j'ai été accusée d'en faire partie, le comble. Bon, je viens tout de même de découvrir qu'un copain français en fait partie. On peut vraiment faire confiance à personne. Je me sais surveiller des deux côtés. Je t'embrasse bien affectueusement, ainsi que papa, Cathy.
Elle insistait sur le fait de ne pas être politisée. Et quand on lit les lettres qu'elle envoyait à sa famille, on voit que c'était vrai. Mais elle est devenue tellement proche, à la fois des soldats américains et des Vietnamiens, qu'elle s'est rendue compte que cette guerre était très loin d'être simple. Elle avait compris que le gouvernement sud-vietnamien était corrompu, que l'idée que des gens se battaient pour la démocratie n'était qu'une idée finalement très loin de la réalité. Et elle adorait les soldats. Mais comme elle l'a écrit dans son dernier grand reportage, un cinquième peut-être de tous les soldats des deux côtés étaient vraiment convaincus, et tous les autres étaient pris entre deux feux. Par ailleurs, elle se rendait compte que c'était une guerre vietnamienne que les Vietnamiens allaient remporter. Et que tant que les Américains se battaient, ce serait le Vietnam du Nord qui l'emporterait. Mais tout cela venait de sa curiosité naturelle et de son intelligence sur le terrain. Et elle le voyait à travers sa caméra, en comprenant ce qu'elle filmait et ce qu'elle photographiait.
Elizabeth Baker, en mai 1968, elle signe un éditorial, « This is War », qui est le premier reportage qui reflète une prise de position critique et pacifiste.
Elle a compris qu'ils attendaient la fin de cette guerre. Elle a vu comment les Vietnamiens étaient continuellement attaqués par les deux camps et que la guerre était en train de détruire leur vie, leurs traditions, leurs villages, qui ils étaient.
En 1969, à Woodstock, puis en 1972, elle va être proche des vétérans de la guerre du Vietnam et des mouvements pacifistes sur le sol américain. On a l'impression que Catherine Leroy prend une distance à la fois critique et géographique avec la guerre telle qu'elle l'a connue.
Elle rentre à Paris après la guerre. Elle était complètement perdue. Elle écrit qu'elle n'arrive plus à traverser la rue. Elle n'arrive pas à parler du Vietnam avec ses amis. Elle se dispute avec eux. Elle était assez irritable. Et elle avait le chic pour aller toujours un peu trop loin. Quand on l'envoie couvrir Woodstock, c'est une bouffée d'air frais. Et quand
elle a trouvé des vétérans de la guerre,
mais elle rencontre des vétérans avec qui elle s'entend naturellement et commence à les fréquenter. C'était la suite logique de ses positions pacifistes. Encore une fois, il ne faut pas chercher chez Catherine Leroy une critique pointue de la politique américaine, mais plutôt une lecture de ce que cette guerre faisait à ces gens au Vietnam et aux États-Unis. C'était quelque chose d'important à ses yeux. Elle disait, quand on prend une photographie, on voit les visages et les émotions des gens. Mais on ne peut pas voir le bruit. Et c'est ça qui la hantait, les voix, les sons de la guerre. Et je crois que c'était sa blessure la plus profonde.
Catherine Leroy était devenue extrêmement, d'une certaine manière, mal dans sa peau. Et sans vouloir le reconnaître, elle était certainement victime du post-traumatic stress syndrome, qui s'appelle en français comment ?
Le syndrome post-traumatique.
Voilà, syndrome post-traumatique, qu'elle ne voulait jamais reconnaître. Non, j'ai pas de problème. Oui, elle avait beaucoup de problèmes, des successions de conflits, des situations quand même extrêmement dures, pas seulement le Vietnam, par la suite le Moyen-Orient, il est arrivé quelque chose d'assez terrible, dont elle n'a jamais parlé, dont on ne sait pas grand-chose, mais quelque chose de grave. Et puis d'autres histoires, elle a quand même été blessée plusieurs fois au Vietnam, et grièvement, elle portait encore du shrapnel dans son corps, en plus d'un endroit, donc il lui est arrivé beaucoup de choses traumatisantes. Et qu'elle soit victime du
syndrome
post-traumatique n'est pas totalement surprenant.
J'ai été blessée 15 jours après, le 19 mai, avec les marines dans la zone démilitarisée. C'est le premier jour où les Nord-Vietnamiens ont utilisé des barrages de mortiers d'artillerie contre les Américains. J'étais depuis 3 jours dans la même compagnie et nous avons eu énormément de pertes. Nous ne pouvions pas avancer. Le 3e jour, au matin, j'ai été blessée moi-même. J'ai reçu plusieurs kilos de mortier, clin de mortier dans le corps.
plusieurs kilos.
Oui, enfin, je suis pas bien grosse. Évidemment, je pesais 39 kilos avant et peut-être 43 ou 44 après. C'était la première fois que je prenais du poids. Vous savez, je suis minuscule, je suis toujours un petit peu santé déficiente.
C'est assez extraordinaire de vous entendre dire que vous êtes d'une santé déficiente, étant donné que vous venez de passer 2 ans au Vietnam, toujours dans les coins les plus durs.
Oh, mais vous savez, quand y a un hélicoptère qui s'approche, je tiens pas debout, c'est évident. Il faut toujours que je m'agrippe à quelqu'un pour m'empêcher de tomber. Je suis pas bien forte, je suis même pas forte du tout, mais je crois que j'ai un caractère qui est tellement déterminé que je marche, je continue à marcher.
Et nous, en tant que femmes, se plaindre encore moins que les autres, encore moins. Parce que si nous, on s'était plaintes, oh, les rédacteurs et les copains auraient été trop contents de dire « Mais tu vois, tu as eu peur, tu as été blessée. Ah, mais évidemment, la guerre n'est pas une place pour une femme. » Alors là, je vais vous raconter une chose, mais enfin, il n'y a pas de tabou, on est là pour montrer la dureté de notre métier. Il paraîtrait que Catherine a été violée au Liban par plusieurs soldats. Bon, c'est une chose que j'ai apprise, dont je n'ai jamais parlé. Et elle, évidemment, n'en a jamais parlé. C'est pas elle qui me l'aurait dit.
Et Christine Spengler, le matin, avant d'aller photographier les rues de Beyrouth, vous preniez le petit déjeuner avec Catherine Leroy.
Ça oui. Beyrouth, moi j'ai travaillé en même temps que Catherine dans l'époque la plus dure de la guerre, entre 82 et 84. Mais je n'ai jamais vu Catherine dans des champs de bataille, c'est-à-dire en dehors de la ville. Un jour, j'étais avec mon chauffeur de taxi de guerre, le mien s'appelait Monsieur Ahmed. J'étais sortie pour photographier une scène. Et puis, j'avais pas vu, comme justement Catherine était si menue, on la voyait pas trop. On la voyait pas du premier coup d'œil. C'est pour ça, m'a-t-on expliqué, que Catherine parlait si fort pour dire « I am here ». C'est moi, je suis là, oui, je suis une femme, je suis là. C'est peut-être justifié par sa taille qu'elle devait surenchérir pour se faire respecter. Bon, et alors là, en effet, je me trouve sans le vouloir sur le terrain de Catherine, puisque je l'avais pas vue. Mais j'étais là, donc je la vois. Et alors, je suis ahurie. Je la vois donner des coups de pied dans une porte, pour essayer qu'on lui ouvre, pour rentrer. Des coups de pied, mais très haut, hein, comme aurait fait un homme. Et en criant, alors celle-là. Mais j'étais ahurie, parce que elle était tout le contraire de moi. Moi, j'opérais au charme. Comme j'ai appris un peu à parler arabe, alors moi, aux soldats, j'hésitais pas. Je leur disais « Yalla, bradar, mon frère, habibé, allez, chérie, laisse-moi passer là. » Bon, et Catherine, elle donnait des coups de pied, elle criait sur les soldats, et après, j'ai su que lors d'une remise d'un très grand prix à New York...
Le prix George Polk ?
Oui, je crois. Elle s'est mise à crier sur notre patron, sur Horst Fasch, à crier sur notre patron alors qu'elle était si petite et menue. Oui, il m'a volé mon négatif, je veux qu'il me rende mes photos. Quel dommage qu'on n'ait pas de photos de ça.
Christine Spengler, la mère de Catherine Leroy,
oui.
Denise Leroy,
oui.
Disait que Catherine était née en colère.
Oui, oui, c'est surtout si sa maman le dit. C'est plus important que nous, si sa maman le dit.
Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle est, à ma connaissance, la seule photographe qui était au moment le plus fort des combats, de la guerre elle-même, qui est retournée alors qu'elle était au Liban en 1975, quand elle a entendu dire que les Nord-Vietnamiens s'approchaient de Saïgon et que la guerre était perdue pour les Américains et les Sud-Vietnamiens, elle a pris un billet d'avion et elle est allée au Vietnam, à la fin de l'histoire. Mais elle retourne 5 ans plus tard pour regarder ce pays en paix. Elle le traverse du nord au sud, fait un parcours de Hanoï à Saïgon, s'arrête dans des lieux qu'elle connaissait, et puis surtout visite d'autres qu'elle ne connaissait pas, et photographie. Et photographie la vie quotidienne, celle qu'elle ne voulait pas photographier quand elle s'est rendue au Vietnam la première fois, et dont lui parlait Horsfass. Non, je vais être photographe de guerre, disait-elle. Et là, elle est photographe de paix, mais sa photographie de paix est directement lié à la guerre. Ce sont les enfants, les orphelins, les victimes de l'agent orange, un produit chimique qui a été largement utilisé pour la déforestation et qui a tué énormément de gens. C'est bien sûr les anciens combattants, c'est des prisonniers sud-vietnamiens encore retenus par les Nord-Vietnamiens. C'est beaucoup de choses, mais c'est aussi la paix. C'est un mélange de choses et c'est un volet incroyablement important, qu'on a découvert seulement récemment. Et donc, on s'aperçoit qu'elle est vraiment, elle n'est pas seulement une raconteuse d'histoire, le témoin d'événements qui se sont déroulés, elle a une sorte de perspective beaucoup plus large. Elle était là pendant la guerre, elle est là à la fin de la guerre, et elle va voir où ça en est 5 ans plus tard. Ça, c'est assez remarquable. S'il y a quelqu'un qui a été extrêmement respectueuse des propos de Robert Capa, si vos images ne sont pas bonnes, c'est parce que vous n'êtes pas assez prêt. C'est vrai que elle avait un sens extrêmement physique de la proximité. Elle voulait être là, très proche, collée. Elle ne travaille pas avec des zooms, elle ne travaille pas avec des téléobjectifs. Le zoom, c'est les jambes. Il faut marcher, il faut être prêt, il faut être là, sur place, si on veut voir quelque chose.
Malgré les nombreuses récompenses qui vont saluer son travail, son nom et son œuvre vont être oubliés. Comment expliquer cet effacement ?
C'est bien pour ça que j'ai écrit ce livre. Je n'arrivais pas à le comprendre moi-même. Il faut comprendre tous les obstacles que les femmes journalistes devaient surmonter, simplement pour exercer leur métier. Il faut se représenter à quel point elles ont été ignorées par leurs collègues. Catherine Leroy a été continuellement rabaissée. On lui disait par exemple que si elle faisait d'aussi bonnes photos, c'est qu'elle prenait trop de risques, mais ce n'est pas vrai. Si elle avait pris trop de risques, elle serait morte. Elle était surtout rabaissée parce qu'elle était une femme. Elle avait un sacré caractère, elle était colérique, jurait beaucoup. On lui reprochait de coucher à droite à gauche. Elle se comportait comme un homme et on lui faisait payer. On la traitait de fille facile. Elle a beaucoup travaillé pour les Américains. Si son dernier reportage était pour Paris Match, elle était surtout connue aux États-Unis. Elle se sentait rejetée par la France. Et de fait, elle a terminé sa vie en Californie. De toute façon, avec Catherine, rien n'est simple. Elle avait le don pour se mettre à dos ses amis. Il fallait être très dévoué pour supporter son caractère. Mais la France aime ses personnalités complexes. C'est ce que je ne comprends pas. Elle mérite d'être reconnue aux États-Unis, mais aussi en France. C'est quelqu'un de compliqué, mais j'aime ses défauts autant que ses exploits. Elle était extravagante, elle était géniale.
Elle était fatiguée, elle ne pesait rien. Moi, quand je l'ai vue, c'était 6 ou 8 mois avant qu'elle ne meure, Donna Coleen, on la regardait, on pensait qu'elle était anorexique. Elle ne mangeait pas. Elle buvait, pas alcoolique, mais elle buvait. Et elle fumait. Moi, j'étais au Festival d'Arles, je me souviens, le 6 juillet 2006, quand quelqu'un dans la rue qui savait que je la connaissais me précipite et me dit « Je viens de lire à l'AFP que Catherine Leroy était morte. » Alors, ça m'a estomaqué en même temps, et j'étais pas surpris non plus. Elle n'avait que 61 ans à peine. Et elle vivait Los Angeles dans un dénuement relatif, mais fort. Et elle n'avait pas d'argent, elle ne se soignait pas. Finalement, elle est quand même allée voir un médecin parce qu'elle se sentait très mal, pour la première fois en 25 ans, quelque chose comme ça, peut-être depuis le Vietnam ou le Moyen-Orient, et diagnostiquée immédiatement avec un cancer qui s'était métastasé, et elle est morte à peine 15 jours plus tard. Pouf! Elle méritait autre chose, et puis là, sur la fin de sa vie, les choses auraient dû être paisibles pour elle, et elles ne l'étaient pas. Et quand elle est morte, justement, quand j'ai appris ça, avec quelques-uns, Friedrichin notamment, et d'autres, on s'est dit, mais c'est pas normal, c'est pas juste. Il ne devait pas y avoir trois lignes sur elle. L'AFP a fait un papier un peu plus long, il y a eu quelques trucs, mais quasiment rien.
Juste avant de mourir, elle a dit à un ami, ne sois pas désolée pour moi, parce qu'elle n'y arrivait plus dans ses dernières années. Elle était fauchée, elle n'arrivait pas à se reconvertir dans d'autres domaines. Peu de gens arrivaient à tenir dans le journalisme de guerre. Elle n'avait pas de plan B. Mais à la fin, elle a dit à un ami, ne me plains pas. J'ai gravi le sommet de la montagne. J'ai été au Vietnam. Je pense que c'est son épitaphe et son héritage.
So I walk a little too fast.
Catherine Leroy, un regard oublié.
So I walk.
Avec Elizabeth Baker, Robert Pledge, Christine Spengler. Merci à Dominique Dechavanne. Traduction Lila Bozès. Lecture Manon Clavel. Attachée de production Sylvia Favre. Coordination Anaïs Quien. Un documentaire de Anna Baron et Yvon Croisier.
So I walk a little too fast. And I drive a little too fast. And I'm reckless, it's true. But what else can you do? At the end of a love affair.
C'était Toute une vie, une émission proposée par Anaïs Quien avec Sylvia Favre, podcast, réécoute, bonus, préparé par Anne-Lise Signoret et Lina, à retrouver sur l'application Radio France et sur le site franceculture.fr.